La Société canadienne de physiologie de l'exercice a publié il y a quelques jours des recommandations en matière de mouvement pour les enfants. Leurs consignes préconisent au moins 3 heures d'activité par jour, et ce dès l'âge d'un an, des recommandations qui visent à lutter contre le phénomène de sédentarité qui frappe les enfants dès le plus jeune âge. C'est le dossier de l'émission cet après-midi pour évoquer cette tendance donc à la sédentarité dans toutes les couches de la population, des bébés aux adultes, en passant par l'adolescent. Tous les âges de la vie sont concernés par le manque d'exercice. On en parle donc avec mes invités. Toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, horloge biologique et maladies inflammatoires.
Et une nouvelle branche de la médecine qui est en train de naître, l'immunologie circadienne, ou comment duper notre horloge biologique pour soigner. On en discute avec la biologiste Hélène Duez.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la chronique du docteur Dupagne consacrée aujourd'hui à l'évaluation des médicaments. Fanny Boyon réalise cette tête au carré.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La sédentarité du bébé à l'âge adulte, ce sera donc le dossier dans un instant avec mes invités que je salue, le professeur François Carré et le pédiatre François-Marie Caron. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue. François-Marie Caron, on n'hésite plus à parler de problèmes de sédentarité également pour les bébés aujourd'hui.
Eh oui. L'homme est un bipède et il marche qu'à 14-18 mois, mais avant aussi, il doit bouger.
Donc dès le berceau, il faut s'en préoccuper. Hein,
comme dès le berceau.
Avec vous. François Carré, les adolescents donc aujourd'hui sont aussi en moins bonne forme que leurs parents au même âge.
Ah oui, il y a une diminution très importante. D'ailleurs, il a fallu modifier les données au baccalauréat parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir les performances pour avoir la moyenne, donc on a abaissé la performance.
Ouais, la sédentarité, donc un véritable problème. Danger sédentarité, c'est un livre que vous signez, François Carré, et on en parle donc avec les auditeurs qui nous rejoignent dans un instant. Voilà, vous l'entendez, cette horloge. On va évoquer l'horloge biologique dans un instant pour traiter les maladies inflammatoires. Une nouvelle piste de recherche à la une de la science. Certaines maladies comme le diabète, l'artérosclérose ou l'hépatite fulminante sont sous influence directe de notre cycle circadien, l'horloge biologique interne de notre organisme. Une équipe de Lille démontre aujourd'hui sur la souris qu'en intervenant directement sur cette horloge, il est possible d'améliorer les symptômes et peut-être de sauver des vies. C'est un pas vers une toute nouvelle médecine et on en discute avec notre invité. Axel Villard.
Oui Mathieu, nous sommes en duplex depuis les locaux de France Bleu à Lille avec Hélène Duez. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste à l'INSERM, chargé de recherche dans l'unité récepteur nucléaire, maladies cardiovasculaires et diabète. Cette découverte, tout d'abord, que l'horloge biologique influence la virulence ou l'apparition de maladies, elle date de quand ?
Alors en fait, nous, on a commencé à travailler sur le sujet il y a 2-3 ans, mais le concept d'immunologie ou d'immunité circadienne, il est né il y a 5-6 ans, en fait, hein, au moment où, en fait, on a commencé à comprendre que le système immunitaire n'était pas ne répondait pas toujours de la même façon en fonction de l'heure de la journée.
Comment on définit l'horloge biologique, si on devait la présenter rapidement ?
Alors l'horloge biologique, c'est un ensemble de petits composants dans la cellule, ça se trouve dans toutes nos cellules, et puis ça c'est exprimé à certains moments de la journée ou pas à d'autres, ça fait comme des petites vagues qui se succèdent, et ça va faire en sorte que toutes nos cellules, les protéines, les gènes, tous les phénomènes qui sont dans nos cellules, en fait, vont avoir ces vagues qui vont se former et revenir toutes les 24 heures.
Vous avez travaillé ici sur une forme d'hépatite en particulier qui est influencée par l'horloge biologique, c'est l'hépatite fulminante. C'est quoi cette maladie ?
Alors c'est une maladie qui est très grave, qui est très aiguë. C'est une destruction massive du foie avec une inflammation, avec des hémorragies. En fait, ça survient lors d'intoxication, par exemple au paracétamol ou ingestion de certaines toxines de champignons, par exemple. Ça peut faire suite aussi à certaines hépatites virales, par exemple. Donc ça touche un certain nombre de personnes chaque année en France. Et finalement, si c'est pas pris à très très tôt dans les premières heures, eh bien on a très peu d'options thérapeutiques, si ce n'est la transplantation de foie.
Et comment vous vous êtes rendu compte que l'horloge influençait sur cette maladie ou sur sa virulence ?
En fait, on a commencé à travailler sur tout d'abord sur des macrophages, hein, ces petites cellules qui servent à la défense de notre corps. Et on s'est intéressé à un petit système de protéines au sein de ces macrophages. Et on a montré qu'il était sous contrôle de l'horloge. Et on a essayé de comprendre que faisait ce petit système moléculaire en s'intéressant à différentes maladies. Et en travaillant avec, en collaboration, en discutant avec des hépatologues, on a commencé à travailler sur l'hépatite fulminante. D'une part parce que ce petit phénomène existe, ce petit composé cellulaire que l'on cible existe dans l'hépatite. Et puis d'autre part parce que, encore une fois, il y a peu d'options dans le traitement de l'hépatite fulminante.
Donc Hélène Duet, cette maladie est devenue une maladie modèle en sorte pour vous, pour étudier justement le lien avec l'horloge biologique ?
C'est ça. C'est devenu une maladie modèle. Alors, il y en a d'autres, hein, comme on l'a dit en introduction. Il y a l'athérosclérose, il y a le diabète. Il y a d'autres pathologies, en fait, qui sont dues à la suractivation de ce complexe cellulaire que nous sommes capables aujourd'hui, maintenant, de cibler pour le moduler, pour l'activer, pour le désactiver à certains moments de la journée ou à d'autres moments de la journée.
Et l'étude que vous publiez aujourd'hui, c'est un travail sur la souris. Vous avez réussi à les sauver, en quelque sorte, de l'hépatite fulminante en modifiant l'horloge biologique, on peut le dire comme ça ?
Oui, c'est ça. En fait, dans l'horloge biologique, il y a plusieurs protéines et il y en a une qui est un récepteur. Donc, on peut moduler son activité, c'est-à-dire qu'on met des petites molécules synthétiques qu'on injecte à la souris. On est capable de moduler cette protéine et de cette manière, on va moduler l'horloge. On va la ralentir ou au contraire, on va l'accélérer, on va la rendre plus forte. Et en faisant ça, en fait, on va jouer sur notre système immunitaire. Alors, si vous pouvez imaginer que votre système immunitaire, il n'est pas constant dans la journée, en fait, il est préparé pour anticiper la phase où on est actif, c'est-à-dire celle où en fait on est plus susceptible de rencontrer un danger, une blessure, un virus, etc. Et donc on peut modifier cette balance entre un état très activé pendant la phase de vie et puis un état plus dormant pendant la nuit pour nous. Et donc de cette manière, on va pouvoir influencer le rythme de réponse de notre système immunitaire.
Mais si tout ce système immunitaire est influencé par l'horloge biologique, est-ce qu'en intervenant sur elle pour régler un problème, on risque pas d'en déclencher beaucoup d'autres ?
Ben oui, c'est un des risques. C'est pour ça qu'on a encore beaucoup de travail à réaliser. Alors on utilise des modèles de souris, d'autres travaillent sur des mouches, par exemple. En fait, on essaye de décortiquer dans chaque organe et dans chaque petit système ce que fait l'horloge et comment on peut la moduler. Alors après, évidemment, à nous de faire attention en termes de molécules qu'on injecte. À quel moment de la journée on va l'injecter ? Est-ce qu'on va l'injecter de manière locale ? Est-ce qu'on va l'injecter de manière générale ? En fait, derrière, on a, une fois qu'on aura mieux compris les mécanismes, on pourra mieux adapter l'administration de ces molécules.
Est-ce que d'une autre façon, en dormant différemment, en changeant notre rythme circadien, on pourrait améliorer la santé de certaines personnes qui souffrent de maladies influencées par l'horloge biologique ?
Ben oui, tout à fait. En fait, bon, évidemment, on va pas. Il y a une amplitude à ça. Hein. On peut pas traiter de pathologies très très graves et sévères. Mais par contre, dans la vie de tous les jours, le fait de bien dormir et le fait de mettre en phase notre horloge avec notre environnement, finalement, permettrait de réduire la survenue de pathologies assez importantes. Hein. On a, par exemple, dans le domaine métabolique, par exemple, on sait que les travailleurs postés sont plus à risque de développer un diabète ou une obésité. On sait qu'ils développent plus facilement un cancer. Et donc, en fait, on sait que l'horloge est vraiment importante dans la mise en place de ces petits défauts qui, à terme, vont conduire à une pathologie très sévère. Et donc, c'est vraiment en amont qu'on peut jouer en faisant attention à bien conserver nos rythmes de vie.
Voilà, Hélène Duez, vous venez de faire une transition parfaite pour le dossier qui va suivre, puisqu'avec nos invités, évidemment, on va parler aussi de l'importance du sommeil, hein, professeur Carré. Évidemment,
hein. Tout à fait, le sommeil fait partie de la santé, on le sait maintenant. Il y a l'obésité développée par... sur l'horloge biologique, par exemple, on sait que les sportifs cherchent toujours les moments où ils sont plus performants, l'entraînement va être le plus efficace sur eux, donc il y a sûrement un lien avec, et la sédentarité perturbant un peu tout l'ensemble du fonctionnement, je vois pas pourquoi elle pourrait pas perturber aussi l'horloge biologique ou certaines parties de l'horloge.
Merci beaucoup en tout cas Hélène Duez pour votre intervention.
Merci.
Merci au studio de France Bleu Nord pour ce duplex, et puis Axel, on se retrouve demain.
Demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, boire la tasse ne serait pas si inoffensif que ça. Figurez-vous que des chercheurs ont analysé la matière fécale de 300 personnes, dont 143 surfeurs réguliers, pour déceler la présence de la bactérie Escherichia coli, résistante aux antibiotiques. 9% des surfeurs en contenaient dans l'estomac, contre 3 pour les autres. Et chose inquiétante, l'étude publiée dans la revue Environnement International indique que ces bactéries avalées en mer possèdent en plus des gènes mobiles capables de transmettre leurs facultés de résistance. Le problème est loin de concerner uniquement les surfeurs. Ces micro-organismes débarquent sur les environnements côtiers via le système de traitement et de rejet des eaux usées et menacent donc l'ensemble des usagers de la mer. Le sirop d'érable également menacé par le réchauffement climatique, c'est ce qu'indique une étude publiée dans la revue Ecology. Des chercheurs ont observé la croissance d'érable à sucre pendant 20 ans et analysé les sols de 4 régions du Michigan. À l'aide de 2 modèles, ils ont étudié 2 scénarios avec une diminution des émissions de dioxyde de carbone dans les prochaines années. Une température diminuera sensiblement et la croissance des arbres restera faiblement impactée. Ou au contraire, si les rejets de dioxyde se poursuivent, eh bien les précipitations en été baisseront de 40% à cause de l'augmentation des températures. Et les érables à sucre pourraient disparaître dans ce cas de figure. Et puis enfin, la sociabilité qui nuit aux marmottes. Des chercheurs californiens ont constaté que les marmottes les moins sociables pouvaient vivre en moyenne 2 ans de plus que les autres. Et pour cela, ils ont étudié 66 femelles adultes d'une espèce réputée peu sociable. Selon eux, celles qui se côtoient le plus sont exposées davantage aux transmissions de maladies via les parasites ou à la compétition quand la nourriture se fait rare. Ils avaient déjà observé d'ailleurs dans une autre étude que les femelles plus solitaires avaient également davantage de descendance. Contrairement donc à d'autres espèces comme les primates, chez qui la vie en groupe confère des avantages, la marmotte à ventre jaune, elle, a évolué pour vivre seule, semble-t-il. Allez, sédentarité dans un instant, c'est le dossier de l'émission. Ah.
La
L'amour c'est mieux. C'est le groupe Mosla sur France Inter.
La tête au carré. Sur France Inter.
La sédentarité du bébé à l'âge adulte, un phénomène qui prend de l'ampleur, qui est devenu un véritable sujet de santé publique. Et c'est donc le dossier de l'émission cet après-midi avec mes invités. Professeur François Carré, vous êtes donc cardiologue et médecin du sport au CHU de Pontchaillou, c'est à Rennes, et professeur en physiologie cardiovasculaire à l'université de Rennes 1. Et vous avez cofondé l'Observatoire de la sédentarité. Vous avez aussi signé en 2014 cet ouvrage « Danger sédentarité » aux éditions du Cherche Midi. Et puis François-Marie Caron, vous êtes pédiatre à Amiens, membre et ancien président de la l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Et ensemble, donc, vous allez répondre aux messages des auditeurs qui nous rejoignent déjà sur franceinter.fr et sur le mot-clé « l'attaque ». Alors, l'actualité pour cette émission, c'est d'abord cette Société canadienne de physiologie de l'exercice qui a publié des recommandations en matière de mouvement pour les enfants de 0 à 4 ans, donc on s'y prend très très tôt, des directives qui se sont appuyées sur un consensus d'experts. Et les Canadiens n'hésitent pas, on le disait tout à l'heure très rapidement, François-Marie Caron a parlé d'un problème de sédentarité pour les plus petits. Vous, en tant que pédiatre français, ça vous intéresse qu'on emploie ces mots-là maintenant ?
Moi, ça m'intéresse et ça répond en fait à ce que nous, on remarque depuis longtemps quand même. Hein, c'est que vraiment, le bébé, il est dans son transat, il est dans sa poussette. On est obligé de dire aux parents de le faire bouger, de le mettre sur le ventre, de le mettre sur le dos pour jouer, pour mettre sur le tapis d'éveil et pas de le mettre sur le transat tranquille. Vous savez qu'on vend même des transats avec un petit arceau pour mettre la tablette. Donc, ouais, vous imaginez.
La tablette. L'écran, effectivement.
Ouais. Donc, je pense que c'est très important. Et moi, je suis très enthousiaste par ces recommandations parce qu'en plus, ça donne des repères et chiffrés et sur le sommeil, ouais, et sur le moment où on est assis. Et
on va rentrer dans les détails avec chouette. Vous parce que c'est intéressant de scruter ça. François Carré, on peut regretter qu'en France, on n'ait pas ce type de recommandations et qu'il faille regarder du côté des Canadiens pour obtenir des choses très concrètes. Hein.
Oui, je pense que les Canadiens sont un peu en pointe dans le domaine. Et surtout, ils osent appeler un chat un chat. C'est pas toujours facile. Et là, ils le font. Et moi, c'est vrai, je pense que ce serait bien que nous aussi, on propose des recommandations qui seraient proches des autres. Mais au moins qu'on le dise, ça montre une volonté, vous voyez. Or, tant qu'on ne montre pas la volonté, ça nous manque un peu, je pense, ouais. Oui.
Pourtant, vous êtes inquiet face à ce phénomène de manque d'exercice.
Moi, je suis très inquiet. Je vais parler très clairement. Je pense qu'on va perdre une génération. Voilà.
Ça veut dire quoi, perdre une génération?
C'est-à-dire qu'il y a une génération d'enfants qui va vivre moins longtemps que leurs parents, ouais, si rien ne change. Et ça n'est jamais arrivé.
Ça va se chiffrer en combien d'années, alors, ça?
Ben écoutez,
une génération, c'est combien?
Mes enfants, je pense pas. Mes petits-enfants, j'espère qu'ils vont bouger.
François-Marie Caron, vous partagez le même pessimisme?
La même inquiétude, oui. Pessimiste, non, parce que je suis un optimiste. On va y arriver. Mais je pense qu'en effet, il faut faire de la prévention. Et la prévention, ça va commencer dès le berceau.
Alors, on va regarder justement ces directives, parce qu'il y a quelques indications intéressantes. Si on commence dès le plus jeune âge, justement, donc vraiment depuis la naissance quasiment de l'enfant, jusqu'à la première année, il y a déjà des indications et des recommandations qui sont faites.
Hein. Oui, c'est ça. Il y a déjà des recommandations qui sont déjà de ne rester qu'une heure assis seulement. Bon, quand ils sont assis, c'est le transat ou des choses comme ça. Et que s'ils sont assis, il faut les mettre en interactivité avec les parents, parce qu'ils ne font pas que développer leur corps, ils développent aussi leur esprit, et c'est des aventuriers, c'est des explorateurs, il faut les aider. Et puis après, il faut vraiment utiliser beaucoup plus le tapis d'éveil et n'utiliser les moments assis que très très peu de temps, déjà dès cet âge-là.
Ouais. Donc il faut essayer de ne pas laisser son enfant plus d'une heure consécutive, c'est ça ?
Assis.
Voilà. Ensuite, il faut commencer à l'inviter.
Il faut le mettre sur le dos, le mettre sur le ventre, jouer avec lui, et puis l'interpeller, lui faire bouger de partout, quoi. Je pense que c'est très important pour son développement psychomoteur, mais c'est aussi de la prévention pour la sédentarité plus tard. Si on commence déjà à parler de mouvement, parce que nous avons parlé de développement, mais maintenant il faudrait parler aussi de mouvement et non sédentarité dès le début. Peut-être qu'on va... Puis les parents, ils seront à quatre pattes, ça les fera bouger un peu.
Ah bah tiens, aussi, tiens. Autant en profiter. Bouger, d'ailleurs, c'est un des mots-clés des Canadiens, dans le cadre de ces directives.
Oui, tout à fait.
Vous trouvez que c'est intéressant d'employer ce type de mots aussi?
Là, c'est quelque chose qu'on a déjà utilisé. Mais le problème, c'est que le plan national de nutrition santé, c'était manger, bouger. Le problème, c'est qu'on l'a un petit peu oublié, le plan national de nutrition santé. Il est beaucoup moins mis en avant qu'avant. Et il y avait des moments où on avait parlé de non-sédentarité, mais... On parlait plus de sport, et pour les parents, c'est le sport. Hein. C'est-à-dire que c'est sûr qu'à l'âge du berceau, on ne l'inscrit pas à un club.
Ouais. François Carré, alors, sur le plus jeune âge?
Je pense effectivement que c'est un problème. Il faut quand même se rappeler une chose, c'est que nous sommes faits pour bouger, et c'est le mot qu'il faut donner, et que quand on ne bouge pas, quel que soit l'âge, eh bien, il y a un blocage de l'expression de nos gènes qui fait qu'on favorise un mauvais environnement pour notre organisme. On connaît tous les effets des pesticides, et c'est pareil, les pesticides bloquent les gènes. Ne pas bouger, ça bloque les gènes, quel que soit l'âge. Donc effectivement, il faut bouger, tout simplement.
Ouais, alors ça, ces recommandations justement, c'est pour un meilleur profil de croissance, cardio-respiratoire, musculo-squelettique, développement cognitif, régulation des émotions. Donc ça balaye un champ extrêmement large hein, sur l'état de santé physique et psychique d'un individu.
Ah oui, aujourd'hui les neurologues le disent, la nourriture du cerveau, c'est bouger, c'est l'activité physique. Premier traitement de la dépression modérée, faire de l'activité physique.
Ouais.
Et jamais on entendait ça il y a quelques années.
Hein. Ouais. Et ces messages, on a du mal à les entendre encore aujourd'hui. Hein. Comment on pourrait faire justement pour essayer de faire en sorte qu'on fasse le lien finalement entre l'exercice physique et l'espérance de vie aussi, hein, et les années en bonne santé, parce que c'est ça le problème.
Il faut qu'on prenne tous conscience que quand on bouge, on s'occupe de notre santé. On doit prendre un rendez-vous avec nous-mêmes pour notre santé. Et ce rendez-vous, il faut qu'on le fasse en bougeant. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, n'est pas encore entré dans notre idée. On ne se rend pas compte des méfaits de ne pas bouger, en fait.
Larry nous dit sur Twitter, entre hyper-sédentarité ou hyper-mobilité, est-ce qu'on peut affirmer la prévalence de l'un sur l'autre? Et si oui, laquelle? Alors, est-ce que c'est mieux de ne pas assez bouger ou au contraire d'avoir trop d'activité physique?
Alors, au niveau de trop d'activité physique, entendons-nous, aujourd'hui, en tant que cardiologue, nous on se pose des questions, s'il y a des limites de trop d'activité physique, les gens dont on parle, ce sont des gens qui font du sport de haut niveau plus de 35 heures par semaine.
Oui, donc là il peut y avoir problème aussi.
Voilà, ça concerne quelques dizaines de personnes en France. Donc, c'est l'hyper-sédentarité.
Oui, François-Marie Caron,
vous êtes
d'accord avec ça?
Oui. Je pense. Hein. Bon, bien sûr, quand on parle des enfants, on dit qu'ils courent dans tous les sens et tout. Cela, il m'inquiète pas trop. Hein. Mais ce qu'il faudrait, c'est bien dès le début bouger et que après ils bougent encore.
Oui.
Hein, et pas qu'on les calme en les posant dans un truc qui va les calmer. Et... C'est bien un bébé qui bouge.
Après un an, ça fait partie aussi des recommandations. On conseille des jeux plus énergiques et 3 heures d'activité par jour, avec toujours au moins 60 minutes de jeu énergique à partir de 3 ans. 3 heures par jour d'activité physique pour un enfant à partir d'un an, c'est ça? Mais ça paraît énorme, non?
Mais c'est pas du sport, c'est bouger.
Ouais.
C'est ne pas être assis, collé devant un écran, collé devant quelqu'un. Non, c'est bouger. Donc ça, l'activité physique, c'est pas le sport. Donc non, moi, ça me paraît pas beaucoup. La récréation pour les un peu plus grands et tout, ils bougent. Hein, et y a pas de problème. Il faut pas leur interdire de jouer au football dans une cour de récré parce que ça arrive. Au contraire, il faut pas les mettre dans l'intérieur parce qu'il fait pas beau. Il y a des caouets, il y a des polaires, il y a plein de choses maintenant. Hein.
François Carré.
D'ailleurs, un enfant bouge. Je me rappelle quand j'emmenais mes enfants au parc ou que j'en les emmène maintenant, je ne les ai jamais vus s'asseoir. De même, il bouge. Il attrape les branches, il saute, il bouge. Donc, 3 heures, c'est rien. C'est bouger, c'est pas du sport. Les parents pensent toujours qu'on leur parle de sport. Pas du tout, c'est bouger.
Donc ça, c'est beaucoup plus simple.
Vous savez qu'à l'école, ils sont un peu plus vieux, mais maintenant, c'est dans les pays scandinaves, ils font il y a des écoles avec de gigotage. Pendant le cours, l'enfant... Les enfants s'arrêtent, on les fait se lever, ils sautent, ils dansent, ils chantent, etc. Ils gigotent, ils se rassaient, ils recommencent.
Il y a des profs qui vont être horrifiés de vous entendre, parce que certains enfants n'ont pas besoin qu'on leur fasse faire du zigotage pour justement y arriver.
C'est eux qui ont raison.
Ouais. Allez, on va se retrouver dans un instant. La suite de ce dossier, les messages des auditeurs et toutes les questions sur franceinter.fr.
Sinking down. tasting poison and flesh. Dragged back from death by the calm of a breath, taken in the fortress of a lover's caress. A bloodthirsty saint with the soul of a whore, dancing in the garden where your babies were born. Fields full of farina, gentle Proserpina, weeping nightly as we cling to her storm. As I walk in the street where you shuffled your shoes, staring up into windows, sinking down into booze. My soul and cigarette were signing a truce, and it made me feel for a moment or two like a pilgrim in the Holy Land. Like a pilgrim in the Holy Land. Like a pilgrim in the Holy Land. Clapping dirt to a cloud with his hands.
Daniel Lupi avec Parquet de Corse.
La tête au carré.
Mes invités, François Carré, François-Marie Caron, pour parler des dangers de la sédentarité avec beaucoup de messages des auditeurs qui arrivent sur le site de l'émission. Je vais vous les transmettre tout de suite. Il y a Niels qui nous dit ceci. Est-ce que pratiquer plusieurs heures de sport par semaine, comme le badminton ou le basket, compense les dimanches entiers sur le canapé? Qui veut répondre, professeur Carré, par exemple?
Eh bien, ça dépend combien d'heures on passe sur le canapé. Il faut savoir, en façon très simple, schématiquement, quand vous restez assis 8 à 10 heures par jour, pour compenser les méfaits de ces 8 à 10 heures par jour, il faut que vous fassiez aussi 1h30 à 2 heures d'activité physique dans la même journée.
Ah oui, quand même.
Oui, oui, oui. Les effets sont indépendants. C'est-à-dire que je peux être sportif sédentaire.
Oui. Ah oui, mais il faut trouver le temps quand même, hein.
Il faut déjà pas rester 8 à 10 heures assis.
Oui, mais ça c'est compliqué. Ou alors, comment
on peut faire? Toujours trouver des raisons, des facilités. Moi, je prends tout bête, je ne téléphone jamais assis. Ma poubelle est loin de mon bureau, je suis forcé d'aller jeter mes papiers. Quand j'ai des réunions...
Ah oui, c'est des toutes petites choses alors.
Ah oui. Ouais. Oui, oui, il y a des travaux.
Mais ce sont ces petits gestes...
Ce qui suffit. Si vous marchez 2-3 minutes toutes les 2 heures, ça suffit.
D'accord.
C'est rien, c'est pour ça que c'est rien, c'est bouger, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas grand-chose en réalité.
Ouais, les enfants vont à l'école en voiture, nous dit Marie, alors que l'utilisation du vélo pourrait être conseillée. Bon voilà, ça fait partie des activités qu'on pourrait justement développer un peu plus.
Oui, il n'y a même pas que le vélo, il y a certaines régions où ils ont fait des pédibus. C'est-à-dire qu'on fait la promenade et on fait le tour des maisons et on va à pied à l'école, à la queue leu-leu, avec un accompagnateur qui emmène tout le monde plutôt que ça soit la voiture.
Oui.
Donc, on a marché.
Donc il y a plein d'initiatives hein, quand même en ce sens. Paul nous dit l'artificialisation des milieux naturels, transformés en béton, en macadam, ne favorise pas les jeux extérieurs. Ainsi, les enfants n'ont pas envie de jouer dehors. Est-ce que c'est vraiment un problème de macadam selon vous, François?
Non, je ne crois pas que ce soit un problème de macadam. Il y a des quartiers où je pense qu'il y a un problème politique pour retrouver la sécurité dans ces quartiers-là, où ça, c'est un problème pour aller dehors. Mmh. Où les parents, là, ne veulent pas laisser sortir leurs enfants. Mais ce n'est pas le macadam qui va les gêner. Hein.
Ouais. François Carré, pourquoi on a l'impression que nos enfants sont moins souvent dehors? En tout cas, il y a moins d'espace vert? Enfin, c'est vraiment une question d'environnement?
Oui, je pense que la sécurité, comme l'a dit Pierre-Marie, François-Marie, c'est qu'en fait, il y a plusieurs études qui ont montré qu'avec le temps, on laisse l'enfant aller de moins en moins loin de chez lui tout seul. Donc ça prouve qu'il y a sûrement une sensation d'insécurité de la part des parents. Mmh. Et c'est pas le macadam. Avant, s'il y a pas de peur, les enfants iront jouer au foot sur le macadam.
Et ça, c'est catastrophique pour l'exercice physique, alors.
Oui. Hein,
si les petits gestes font beaucoup, justement, pour,
oui, c'est...
pour l'activité. On va écouter un reportage de France 3 qui a été diffusé en 2016, en mars 2016, sur les sports et l'enfant et ce problème de la sédentarité avec une étude australienne qu'on va commenter ensemble juste après.
Courir, sauter, lancer. Ces adolescents sportifs sont-ils en minorité au XXIe siècle? Selon une étude australienne, c'est une certitude. En cause, les tablettes, smartphones et ordinateurs. Toutes ces liaisons Internet qui bloquent les plus jeunes sur les matelas ou les canapés. Et les parents ont parfois du mal à les détourner des écrans.
Avant, on faisait beaucoup d'activités avec le grand garçon. Par contre, qu'avec les filles, maintenant, ils ont tous une tablette, ils sont tous sur Internet. C'est assez compliqué, quoi.
Les enfants des années 70 étaient bien plus athlétiques, selon les chercheurs australiens. À tel point qu'en 40 ans, disent-ils, les capacités cardiovasculaires des 9-16 ans ont baissé de 25%. En 1971, un collégien courait le 800 mètres en 3 minutes en moyenne, alors qu'il met aujourd'hui 4 minutes pour la même distance.
Voilà, François Carré. Ça, c'est un chiffre qui a beaucoup été commenté, évidemment, sur la différence de capacité entre la jeune génération et celle de leurs parents. Et on est passé sur un 800 mètres à 4 minutes au lieu de 3.
Oui, la distance n'était peut-être pas tout à fait exacte d'après les calculs qui ont été faits. Peu importe, c'était peut-être 600 mètres, mais peu importe. En gros, il y a une perte énorme. Et cette étude est une étude remarquable puisqu'elle concerne 11 millions de collégiens dans le monde.
Ouais.
Donc, c'était une très belle étude. Et les Français, c'est 25%, n'est pas les plus mauvais, hein, il faut quand même le dire. Il y a des pays où c'est beaucoup plus. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très important. Alors pourquoi c'est important? Je rejoins un petit peu ce que je disais tout à l'heure quand j'étais assez pessimiste. Parce qu'en fait, votre capacité physique, notre capacité physique est le reflet de notre espérance de vie en bonne santé. Donc si nos enfants partent à 18 ans avec une capacité physique moindre que la nôtre, comme elle va baisser, comme la nôtre a baissé, ils vont atteindre le niveau zéro plutôt que nous. Et bien sûr, on va tout faire pour que ça change, pour tempérer mon pessimisme.
Voilà, exactement. Et on va peut-être aussi agir sur les écrans, François-Marie Caron, parce que ça, c'est aussi un domaine qui vous intéresse beaucoup. C'est ce qui fait toute la différence aujourd'hui, c'est l'accès à toutes ces tablettes qui sont à disposition des enfants ou pas?
Moi, je crois qu'il faut faire attention quand même. L'écran, c'est quelque chose de génial. Il ne faut pas le rendre responsable de la sédentarité. Hein, je veux dire, on a des parents. Hein. Bon, alors, les parents et les écrans, il faudrait peut-être se poser des questions. Hein, parce que je crois, on parle toujours des enfants et des écrans, Je crois que les plus accros, c'est bien les parents. Mmh. Et justement, pendant qu'ils sont sur leur écran, ils s'occupent un petit peu moins de leurs enfants. Je pense que là, le problème, il est là. Si on arrive à faire bouger les enfants et à les faire bouger le temps qu'il faut pour bouger dans les recommandations, c'est-à-dire que les 2 ou 3 heures d'activité physique par jour, je peux vous dire que ça, plus les devoirs, plus l'école, il n'y a plus beaucoup de temps pour les écrans. Alors c'est sûr qu'il ne faudra pas les écrans après dîner, parce que les écrans après dîner, c'est la lumière bleue, c'est plus le sommeil.
On en a beaucoup parlé dans cette émission.
Mais par contre, donc l'horloge biologique de tout à l'heure, mais par contre, si on règle le problème de la sédentarité, je pense que les écrans, ça sera beaucoup moins. Mais après, il faut que les parents jouent leur rôle de parents. Mais il faut qu'on les aide à le jouer. Il ne faut pas leur faire peur avec les écrans. Il faut les accompagner. Et puis, rappeler l'importance de l'activité physique. On disait un esprit sain dans un corps sain. Je pense que c'est quand même une vieille phrase, ça.
Ouais. Alors justement, l'AFPA a fait une étude sur les écrans en 2016, sur l'impact néfaste sur les enfants. Alors, tout dépend aussi de la tranche d'âge, là encore. Il faut vraiment regarder ça à la lumière aussi des différentes étapes de la vie ou pas?
Ah, mais bien sûr, on peut pas ne pas parler de tranche d'âge. Je veux dire, un enfant de moins de 3 ans, il n'a rien à faire devant un écran parce que d'abord, il y comprend rien. Il entend le son, mais il est hypnotisé, mais il y comprend rien.
Donc ça, on fait un petit arrêt là-dessus. Ça veut dire que vous préconisez de absolument pas donner d'écran à des bébés ou à des enfants dans les premières années.
Ah, il faut pas donner un écran pour le calmer. Il faut pas donner un écran pour qu'il soit.
Mais même un écran de télévision. Enfin, je veux dire, le fait de montrer un film, par exemple, un dessin animé à un enfant de 2 ans.
Un enfant de 2 ans devant un écran ne comprend pas ce qui s'y passe parce qu'il est là en train de regarder cette image, mais il n'a pas eu le temps d'analyser l'image, que c'est déjà une autre, La preuve, c'est qu'à 4-5 ans, quand vous allez lui mettre un DVD, il va le mettre 20 fois parce que là, il commence à comprendre. Pas parce qu'il l'aime bien, mais parce qu'il comprend au fur et à mesure. Donc c'est pour ça, avant 3 ans, il n'y a rien à faire devant un écran.
Et ensuite, alors qu'est-ce qui se passe?
Ensuite, après, on accompagne.
Il y a les fameuses règles, hein, c'est ça.
Après,
on en avait parlé avec Serge Sistron.
Bien sûr, on laisse de 3 à 6 ans, on laisse pas un enfant tout seul sur une console vidéo. Il peut jouer aux jeux vidéo, mais accompagné avec ses frères ou sœurs ou tout seul pour avoir un jeu qui bouge, en gardant l'activité physique nécessaire. Toujours pareil, hein, donc le temps est là. Et après, c'est par rapport à Internet, mais tout ça, c'est une question d'accompagnement. Et il faut les 3, 6, 9, 12 dont vous parliez. C'est un guide, hein, c'est des repères pour les parents pour qu'ils sachent un tout petit peu parce qu'ils sont perdus, mais il faut qu'ils osent être parents.
Ouais. François Carré, au cœur de ces problèmes de sédentarité, il y a vraiment les écrans ou pas alors pour vous? Est-ce que c'est central dans les habitudes et dans les changements aussi de pratiques, hein?
Oui, disons que moi je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que les écrans, de toute façon, les écrans, on en a besoin. Il n'est pas question de ne pas les utiliser. Moi, j'utilise les écrans comme tout le monde, mais j'essaye de les utiliser de la bonne manière. Effectivement, si on sait qu'un enfant, quand on le met devant la télévision et qu'un petit ne comprend rien, il ne faut pas le mettre devant la télévision. Bien sûr que ça va le calmer. Et je vais pouvoir prendre mon petit déjeuner tranquille, mais c'est pas ça le problème. Donc, je pense que ça a un peu aggravé les choses. Ça n'explique pas tout, mais ça l'a aggravé, c'est sûr. Mais c'est pas les écrans, c'est l'utilisation qu'on en fait qui est mauvaise, là encore.
Donc cette règle des 3, 6, 9, 12, hein, selon les âges de la vie, inventée par Serge Tisseron, que vous avez relayé justement à l'AFPA. On peut le trouver toujours sur le site de l'AFPA, évidemment.
On l'a sur le site de l'AFPA, on l'a sur le site de sergetisseron.com, et il y a des... Ça, elle bouge tout le temps, parce qu'on est de moins en moins pas deux, et de plus en plus faisons ça, quoi. Mais je crois qu'il faut apprendre à créer avec les écrans, il faut qu'ils en parlent, et puis il n'y a pas que l'écran.
François-Marie Caron, on les rappelle très rapidement, donc 0 à 3 ans. Pas d'écran, ça vous êtes catégorique. Ouais. 3 à 6 ans
Pas de jeux vidéo tout seul, pas de console vidéo pour soi.
Donc accompagnement.
Accompagnement.
Ouais. 6 ans
6 ans, internet pas tout seul, et puis on découvre un tout petit peu, mais toujours accompagné avec les parents. Mm-hmm. 9 ans, on rappelle les règles d'internet, et puis après 12 ans, moi je trouve la première chose, c'est on coupe la wifi la nuit, et on range le portable, il se recharge dans la cuisine, avec celui des parents.
Ouais.
Avec celui des parents, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que les parents donnent l'exemple.
Pas d'écran dans la chambre et pas d'internet dans la chambre. Donc ça, c'est vraiment le message. Et du sommeil quand même, parce que on parle de ces enfants qu'on doit faire bouger, même ceux en très bas âge. Mais évidemment, le sommeil, c'est l'activité principale entre 0 et 3 ans quand même.
Mais s'ils ont bien bougé, ils dorment mieux.
Voilà, c'est ça. Donc on peut en recueillir tous les bénéfices. Il y a une très bonne question de Dominique qui nous dit ceci. Est-ce que les enfants atteints d'hyperactivité sont en meilleure santé? Voilà, des enfants qui bougent naturellement parce qu'ils sont hyperactifs. Est-ce qu'il y a des études, professeur Carré, qui ont été menées sur ces enfants?
Alors, je ne suis pas compétent, François-Marie, pour répondre mieux que moi sur l'hyperactivité. Par contre, ce dont je suis certain, c'est que quand je vois combien les Américains trouvent qu'ils ont d'enfants en hyperactivité, je pense que simplement parce que les enfants, ils trouvent qu'ils bougent trop et qu'ils les... C'est...
Oui, cette explosion d'enfants. On peut se dire que c'est formidable pour lutter contre la sédentarité, justement, l'hyperactivité.
Tout à fait. Vous savez, les gens qui ont les pieds qui bougent tout le temps sous la table, eh bien, c'est rentable. Il y a une étude qui l'a montré, c'est mieux que de pas les bouger.
Voilà, vous voyez, c'est une réponse à cette question. François-Marie Caron.
L'hyperactivité, d'abord, n'est pas pathologique quand on a 4 ans. Quand on a 4 ans, on est hyperactif, on va dans tous les sens. C'est plus après 6-7 ans. L'hyperactivité et la santé, c'est surtout leur cerveau qui est toujours en activité. Ça, je pense que ça doit être très compliqué à vivre. Il y a aussi des hyperactifs parce qu'ils sont... je pense que le sport en lui-même arrivera à les relaxer un tout petit peu et pouvoir remplacer les médicaments, certainement. Mmh.
Patrice nous dit, certains parents préparent malheureusement leur progéniture à un manque d'exercices répétés. Payer des planches à roulettes électriques à leurs enfants relève d'une stupidité déconcertante.
Et on a même un petit marche-pied pour les poussettes pour mettre ceux de 3 ans, parce que surtout pas qu'ils marchent à côté de vous.
Donc tout ça, ça participe à cette tendance catastrophique.
Et on s'en rend pas compte. Et je crois qu'il faut pas non plus marquer au fer rouge les parents. C'est pas notre but. C'est simplement qu'ils ont pas pris conscience combien c'était important. Quand j'apprends que maintenant, on commence à avoir des diabétiques de type 2, c'est-à-dire, on a appris ça, c'était le diabète de la maturité. Ils ont 16 ans, c'est-à-dire qu'on est mature à 16 ans maintenant, avant c'était 40. C'est-à-dire que l'enfant de 16 ans va être confronté au risque du diabète de 16 ans à 80 ans. Vous imaginez les dégâts que ça va donner? On n'est pas du tout préparé à ça. Et donc, alors aux États-Unis c'est l'explosion, mais nous on en voit. On n'en voyait jamais avant.
Allez, le bal des oiseaux, Thomas Fersen, et on se retrouve juste après pour la suite de notre conversation avec toujours beaucoup de messages pour vous sur le site de La Tête au Carré. Bon après-midi.
Au printemps de ma vie, je quitte mon père. La ville attend les petits rats des champs. Une jolie fermière me dit, où vas-tu? Monte derrière avec les laitues. Les pieds dans le ciel, chez les hirondelles. Nous irons danser au bal des oiseaux près de la rivière. Les prés sont verts, quel âge as-tu toi? De pain. La campagne se prête à tout, mais la ville pas du tout. Nous irons danser au bal des oiseaux près de la rivière.
Le bal des oiseaux, c'était en 93. Souvenez-vous, Thomas Fersen.
La tête au carré sur France Inter.
Non, nous ne sommes pas au Japon, berceau de ce sport érigé en œuvre d'art. Nous sommes en Grande-Bretagne, où le phénomène des bébés sumo devient un véritable problème de santé publique.
Cette enquête montre qu'au Royaume-Uni, nous avons un grand nombre de bébés sumo, beaucoup plus gros que ce qu'ils devraient être. C'est une conséquence des femmes qui tombent enceintes alors qu'elles sont déjà en surpoids.
Les premiers bébés sumo ont fait leur apparition outre-Manche en 1966. Depuis, leur nombre n'a cessé d'augmenter, ainsi que leur poids moyen. Ainsi, en 2013, une femme a donné naissance à une fille de plus de 6,5 kg. Quant au plus gros bébé masculin, il pesait, lui, 7,1 kg à la naissance. Plus d'un quart des enfants britanniques sont en surpoids, avec tous les problèmes qui vont avec, surtension, difficultés cardiovasculaires, diabète, etc. Pour les autorités, le Royaume-Uni est aujourd'hui confronté au plus grave problème de santé publique de son histoire.
Voilà, c'est un reportage qui avait été diffusé sur France 2 en 2014 autour donc de ce phénomène des bébés sumo. Comment est-ce qu'il faut l'interpréter justement, François-Marie Caron ? Est-ce que c'est un phénomène très localisé ou est-ce qu'il faut quand même s'inquiéter un petit peu ?
Oui, c'est pas du tout un phénomène localisé. Le phénomène de l'obésité est pas un phénomène localisé, mais c'est un phénomène beaucoup plus complexe que manger et bouger. C'est toute l'épigénétique qui se fait, c'est-à-dire la façon dont va s'exprimer un gène vers l'obésité ou pas. C'est tout l'environnement. Et il y a la fameuse théorie des 1000 jours, on sait que quelques jours avant la conception, jusqu'aux 2 ans de l'enfant, là, tout ce qui va se passer autour de l'enfant, le stress, le surpoids de la maman avant d'avoir commencé sa grossesse, la prise de poids excessive, tout ça peut jouer sur le poids de l'enfant et peut jouer sur le gène de l'obésité qui va se développer de plus en plus. C'est pas aussi simple que je mange pas et je mange trop et je bouge pas. Mais c'est beaucoup plus complexe, l'obésité. Ouais. Le surpoids, c'est différent.
Depuis le temps que vous pratiquez, vous, maintenant, vous avez vu aussi vraiment ces phénomènes. Alors, on parle de quoi ? D'obésité et pas de surpoids, parce qu'il faut vraiment distinguer les deux.
Disons que l'obésité, c'est une maladie, vous ne pouvez rien contre. C'est le gène qui s'est exprimé à cause de plein de choses dans l'épigénétique et de plein de choses environnementales. Le surpoids, on peut quand même jouer dessus. Mais c'est pas le poids qui compte. Je veux dire, c'est vraiment ce que je voudrais qu'on retienne par rapport au thème de cette émission, c'est qu'on peut être mince, sédentaire, on sera pas en bonne santé, on peut être en surpoids, non sédentaire, on sera en bien meilleure santé.
Mais que montrent les chiffres là aujourd'hui, parce qu'on parle d'une épidémie mondiale d'obésité quand même.
Oui,
donc
c'est ça.
C'est quelque chose que vous observez dès le plus jeune âge aussi.
Oui,
c'est quelque
montre.
Chose qui arrive de plus en plus tôt dans la vie d'un enfant.
Oui, ça arrive de plus en plus tôt. On a réussi à peu près à stabiliser en France. Dans les catégories favorisées, parce que les catégories défavorisées, le taux d'obésité continue à grimper.
Les messages des auditeurs. Nathalie nous écrit ceci: dans les années 70, je suis donc vieille, nous écrit-elle, on jouait à la corde à sauter, aux gendarmes, aux voleurs, à la balle au pied, à l'élastique, dans la cour d'école et après l'école le soir, on revenait à pied de l'école, on montait les escaliers, on pédalait. Tous ces jeux sont jugés dangereux, les cordes, les élastiques, les balles sont interdits, les enfants sortent leur téléphone dans la cour, on les voit regarder des vidéos dans les parcs au lieu d'aller jouer. Bon, on va pas jouer au nostalgique absolu, mais il y a quand même un fond de vérité, professeur Carré,
sur... Oui, il y a un fond de vérité, je ne sais pas ce qu'en pense François-Marie, mais la Marelle, pour moi, c'est un très bon jeu, puisqu'on développe les qualités de l'espace, l'équilibre, le renforcement musculaire, etc.
Ils jouent encore à la Marelle, les enfants, aujourd'hui, ou pas ?
Pas beaucoup.
Pas beaucoup, non.
Je pense pas, non. C'est vrai qu'il ne faut pas être nostalgique, mais... on retombe un peu sur ce problème de sécurité, quoi. D'ailleurs, sans faire de publicité, la Fédération française de cardiologie a fait un petit film où elle dit bien que les enfants qui tombent en vélo prennent moins de risques pour leur santé que les enfants qui restent devant leur télé. C'est pas grave de tomber en vélo, on est tous tombés. Mais c'est pas grave.
Esther nous dit, dans les écoles primaires et maternelles de ma ville, on ne va pas la citer, les enfants sont mis devant la télé à la moindre goutte de pluie. Est-ce que c'est un phénomène que vous déplorez aussi, François-Marie Caron ?
Ah ben, moi, je trouve ça particulièrement triste, mais qu'il y ait des télés dans les maternelles et des télés dans les crèches, des télés dans les... Enfin, je pense qu'il y a un problème, là. Il faudrait peut-être qu'on réagisse un tout petit peu.
Comment faire lorsque, même en crèche publique, les professionnels de la petite enfance mettent constamment les bébés en transat, nous dit Véronique.
Ben oui. Non, je pense que là, il faudrait vraiment faire un grand tapis d'éveil et puis ranger les transats.
Un autre message de Marjorie, parce qu'ils sont nombreux, je vous les donne donc. Je crois que l'exemple donné par les parents est très important. Chez nous, tout le monde fait du sport ou une activité physique suivie. Et les enfants ont compris l'importance de l'activité physique. Nombreux sont les amis de mes enfants qui arrivent au lycée et qui ont arrêté toute activité physique. C'est ça le problème aussi, hein, professeur Carré, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. C'est que moins on fait de sport dès le plus jeune âge, et plus c'est compliqué ensuite de se mettre à une activité.
Bien sûr, quand on a oublié ce que c'est que l'activité physique, quand on en fait, c'est difficile. C'est comme si je ne lis pas pendant 2 ans. Quand je vais recommencer à lire, je vais buter sur les mots. C'est pareil. Les gens ont l'air surpris. Mais non, c'est normal. Si je ne fais pas quelque chose régulièrement, chaque fois que je vais le faire, ça va être difficile. Et donc, l'enfant qui n'en fait plus du tout, eh bien, il va avoir beaucoup de mal. Un enfant qui n'a pas bougé sera un adulte qui ne bouge pas.
Philippe nous dit, l'objectif santé doit être l'objectif prioritaire de l'EPS scolaire. Il y a 12 millions d'élèves qui passent dans notre système éducatif. Il faut mettre les moyens. Je suis professeur d'EPS en lycée. Les ados sont sensibles pourtant au message sur la non-sédentarité. Il y a plein d'activités ludiques qui permettent la mise en activité physique.
Tout à fait d'accord. Je pense que vraiment l'EPS, ça doit être l'activité physique et pas le sport en général, vraiment sur l'activité physique. Mais il n'y a pas que le sport, il n'y a pas que l'EPS. Le reste du temps aussi, on doit aussi pouvoir se déplacer, on doit aussi pouvoir bouger dans la cour et pas rester à l'intérieur du préau parce qu'il pleut dehors. Quoi.
Jacques nous dit, j'ai 30 ans, je suis depuis 7 ans vétérinaire rural, donc sur les routes tous les jours, avec en moyenne 100 km à mon compteur. J'ai lu dernièrement dans une revue que plus d'1 heure de voiture par jour augmentait le risque de dépression de 33%, je serais sûrement dans cette tranche si ça continue. Quand on pense à l'activité de nos grands-parents en milieu rural, on comprend pourquoi ils n'avaient pas besoin de footing le dimanche, de salle de sport et autres défoulements artificiels et improductifs, nous dit-il. Là aussi, lien entre sédentarité et dépression, il y a des études sérieuses là-dessus.
Il y a plusieurs études qui l'ont montré. Aujourd'hui, on propose donc... Premier traitement de la dépression modérée, c'est l'activité physique, hein, et on va même dire sur les démences, hein, sur les personnes âgées, il y a plusieurs études qui ont montré qu'il y avait un effet préventif, un effet de ralentissement de l'évolution de la maladie d'Alzheimer, par exemple.
François-Marie Caron.
Ah oui, moi je pense que c'est très très important pour le bien-être, l'activité physique. Je vois souvent aussi arriver en consultation des enfants pour douleurs thoraciques et tout ça. Alors là, ils ont l'impression qu'ils sont malades du cœur et tout. Et en fait, d'abord, quand je palpe leur trapèze, il est très douloureux. Et puis surtout, quand je fais l'inventaire de ce qui bouge dans la journée, il bouge pas. Et je leur explique que le cœur est un muscle et que s'il fait pas travailler ce muscle-là, bah, c'est normal qu'il soit essoufflé et qu'il va lui falloir du temps, mais il faut qu'il se remette en marche.
Nathalie, ce sera notre dernier message sur Twitter. Il faut changer les représentations. Les adultes souhaitent des enfants sages, qui ne bougent pas. Y a-t-il une corrélation entre sédentarité chez le tout-petit et les troubles de l'attention en classe? Alors, il y a deux parties, finalement, dans ce message. Oui. Les enfants sages souhaités par les parents.
Ah oui, ça, c'est sûr. Je pense que si ça bouge pas, si ça pleure pas, si ça fait pas trop de bruit, c'est pas mal. Pas tous les parents, quand même. Hein. Je pense que l'amour, c'est différent. Et puis, par rapport à l'attention, je pense en effet que bouger et augmenter diminuer la sédentarité va améliorer l'attention, bien sûr.
Un message pour terminer, professeur Carré, parce que quand on lit votre livre « Danger, sédentarité, vivre plus en bougeant plus », il y a de quoi s'inquiéter, parce que la sédentarité tue, hein, tout simplement. Il faut dire les choses comme
oui,
ça,
la sédentarité
de façon
tue,
brute et raccourcie.
En 2008, les chiffres l'ont montré, il y a eu plus de décès liés à l'inactivité physique et la sédentarité qu'au tabac. Alors, bien sûr, il faut comparer ce qui est comparable, comme il y a plus de gens sédentaires, en pourcentage, c'est pas tout à fait vrai. Mais en réalité, 5,3 millions de décès, c'est ce que dit l'Organisation Mondiale de la Santé, pour l'inactivité physique, contre 5,1 pour le tabac. Donc la sédentarité tue.
Bon, ben on va déjà se lever pour aller à la poubelle du bureau, ce sera déjà le premier pas pour faire un exercice concret avant d'aller dans une salle de sport. Il n'y a pas que le sport, on a bien retenu le message là aussi. Merci beaucoup à tous les deux. Danger sédentarité, c'était publié aux éditions du Cherche Midi.
France Inter, santé polémique, avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Et c'est le jeudi, c'est la journée de notre médecin. Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Et on fait de la science dure aujourd'hui alors ?
Pas tant que ça, mais je vais quand même donner dans la métaphore pour expliquer une réalité mal connue qui concerne l'évaluation des médicaments. Alors, je rappelle le principe des études randomisées. On répartit par tirage au sort des sujets dans deux groupes. Une moitié reçoit le médicament à étudier, l'autre un placebo inactif et on cherche à mettre en évidence une différence d'efficacité entre les deux groupes. Alors après, une analyse statistique permet de calculer le risque que le hasard hasard explique à lui seul la différence observée. Et si ce risque est inférieur à 5%, on dit que l'étude est positive, le médicament est reconnu comme efficace. Mais si la différence observée a plus de 5% de chance d'être liée au seul hasard, l'étude est dite négative. Et alors, que peut-on en conclure ?
Eh bien, vous allez nous le dire, j'imagine.
Eh bien, la réponse générale, c'est rien. Et surtout pas que le médicament est inefficace. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas trouver de différence d'efficacité significative dans votre étude, que cette différence n'existe pas dans la réalité. Pour que ça soit plus clair,
oui, s'il vous plaît.
Oui, allons au cinéma.
D'accord.
Hein, on va au cinéma. Imaginez que vous alliez voir un film avec des amis. Vous êtes tous au premier rang, et sauf votre amie Sophie, qui est en retard, comme d'habitude, et vous scrutez la salle à la recherche de Sophie. Bah, de deux choses l'une. Soit il vous semble bien l'apercevoir, et vous pouvez donc conclure qu'elle est là avec un faible risque d'erreur. Votre recherche est positive, c'est l'équivalent d'une étude positive sur un médicament. Maintenant, imaginez que vous ne voyez pas Sophie. Votre étude est négative. Pouvez-vous en conclure que Sophie n'est pas là ?
Pas vraiment, non.
Bah non, vous ne pouvez pas affirmer que Sophie est absente, parce que soit elle est vraiment pas là, soit elle est là, mais vous ne l'avez pas vue. Eh bien, le problème est le même pour une étude négative. Soit le médicament n'est réellement pas supérieur à un placebo, soit il l'est quand même, mais votre étude n'a pas permis de le démontrer parce que, par exemple, vous n'avez pas inclus assez de sujets. C'est l'équivalent de « vous n'avez pas vu Sophie alors qu'elle est quand même là ». Donc, pour conclure avec une quasi-certitude que Sophie n'est pas là, il faudrait attendre la fin du film et puis placer un de vos amis à chaque sortie pour scruter les spectateurs. C'est bien plus compliqué que de jeter un coup d'œil à la salle. Eh bien, c'est pareil pour les médicaments. Affirmer qu'un médicament ne marche pas nécessite un protocole de recherche bien plus lourd que pour montrer qu'il marche. Et donc, quand une étude montre contre placebo est négative, la seule conclusion valide est qu'elle n'a pas permis de démontrer l'efficacité du médicament et surtout pas que le médicament n'est pas efficace.
Ça, c'est intéressant.
Oui, et source de bien des confusions. Mais nos auditeurs les plus attentifs sont en train de se dire « Mais alors, docteur, n'est-ce point ce que vous avez fait dans vos deux dernières chroniques à propos du calcium et de la vitamine D ?»
Oui, c'est vrai, ça vous fait alors.
Eh bien, écoutez, la réponse est un peu longue, donc j'invite les auditeurs intéressés à lire cette réponse sur la page de ma chronique Santé Polémique.
Voilà, Santé Polémique, et vous avez toujours votre site internet, Dominique Dupagne, atout.org également, pour relire d'autres articles, et c'est en lien, là aussi, sur le site de la Tête au Carré, chronique à réécouter, et on vous retrouve, bien sûr, jeudi prochain. Merci beaucoup, Dominique. Et c'est terminé pour cette Tête au Carré. Merci à Maxime Ingrand, Julien Chabassieu qui était aujourd'hui à la technique. Demain, ce sera notre rendez-vous club. On parlera entre autres des arbres. On reviendra sur la victoire des associations écologistes au sujet de la pêche électrique. Ce sera donc demain dès 14h.